En fait, Radio Roulotte, c'est une... On va faire de la radio dans une roulotte tirée par des chevaux de trait.
Bien, oui, bienvenue sur Radio Roulotte. Radio Roulotte, premier jour à Floreffe. Radio Roulotte, c'est quoi? C'est une roulotte tirée par des chevaux de trait. Et dans la roulotte, il y a quoi? Une radio.
Une radio.
Alors, c'est une équipe qui pourrait être apparentée à Radio Esperanza, vu qu'en face de moi, au micro, il y a Clarita. Bonjour Clarita.
Bonjour Déborah, comment tu vas?
Très bien, ravie en tout cas de vous retrouver pour ce nouvel été sur les ondes avec un nouveau projet, donc Radio Roulotte, avec Dawid aussi qui est à la technique, qui nous fait un grand signe. Iñaki qui se balade de gauche à droite. Il y a également Aurore, Sophie, Alban, Fred, Frédé.
Pas mal de monde et des invités qui vont nous rejoindre tout au long de ces 4 jours itinérants de Radio Roulotte.
Le but de Radio Roulotte, c'est quoi? C'est de rencontrer les fleurs et foies. Donc on part de Radio Esperanza dans un studio et l'envie était de sortir du studio, mais aussi de l'abbaye et aussi de Floreffe. Se dire que Esperanza, c'est un festival, mais qu'il y a beaucoup plus que ça autour. Et vraiment l'envie pour nous de rencontrer les fleurs et foies du cru.
Et leur donner la parole
aussi, de connaître leur réalité, les associations que eux créent eux-mêmes et puis les gens. Voilà, et on a entre autres comme invité aujourd'hui André Le Cire. Bonjour.
Bonjour madame.
Voilà, donc vous êtes. On va peut-être commencer tout de suite. Hein, vous êtes un greeter.
Un greeter, oui. Si nous vivions au Québec, on dirait un accueillant.
Donc en fait, un greeter, on ne connaît pas vraiment. Enfin, c'est pas un mot courant finalement.
Non,
est-ce qu'on peut dire qu'un greeter est un guide?
Non, pas tout à fait. Non. Le guide, disons, est professionnel. Le greeter, lui, travaille avec ses tripes. C'est quelqu'un du pays et qui présente sa localité d'après son vécu. C'est tout à fait différent comme concept.
Très subjectif, alors, et pas spécialement dans
le guide. Ça peut être subjectif, oui, effectivement. Ouais, voilà. Oui.
Et puis aussi, comme autre invité aujourd'hui sur Radio Roulotte, eh bien, Jean-Phi, qui est un fleurefois.
Un Buzetti.
Tu viens de Buzet, alors?
Oui, j'habite Buzet. Je suis un peu une pièce rapportée. Hein.
Mais donc ça, justement, on parlera un peu plus tard de tout ce qui est à Floreffe, qu'est-ce qu'un Floreffois, pourquoi est-ce qu'à Buzet, est-ce qu'on est Floreffois. Enfin, ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, donc Radio Roulotte, c'est parti aujourd'hui. Donc Radio Roulotte, faut quand même dire que ce matin, on était au marché de Floreffe. Donc le marché de Floreffe qui a lieu tous les jeudis matins. On est arrivé avec la roulotte tirée par Omega et Darcy, donc nos deux chevaux de trait ardennais, qui sont assez imposants, ma foi. Je ne sais pas si vous les avez vus, Jean-Phi et André.
Pas encore.
Je les ai vus ce matin.
C'est assez impressionnant, mm-hmm. Mine de rien.
Oui, énormes. Ils sont énormes, ils sont grands, mais alors ils sont tout gentils. Hein. Ils sont tout doux. Et puis, apparemment, le démarrage a été un peu dur, mais sinon, voilà. Assez poétique en fait, et bucolique.
Oui, mais faut savoir que ces chevaux, donc Darcy qui est la jument fait, c'était combien? 680 voilà, ou 680 kilos.
Et Omega arrive à 800, à voilà. 800 kilos.
Et faut ça pour tirer une roulotte.
Voilà, il faut ça pour tirer une roulotte.
Voilà. et puis peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite question. Alors j'ai trouvé. Auriez-vous eu votre certificat d'études en 1923? Donc, certificat d'études, c'est le certificat de 6e primaire. D'accord? Alors.
On vous avait parlé de ce piège?
Non, à personne. Donc, on va vous les poser. Calcul de rentier. Une personne dispose d'un capital de 25 000 francs. Elle peut le placer en rente, 4%, au cours de 58,50 francs. Ou acheter un immeuble qui lui rapportera 8%. Mais dans ce cas, les frais d'entretien et les impôts absorberont 1/8 du revenu total. Quel est le placement le plus avantageux?
Je propose une petite pause musicale, le temps que tous nos auditeurs puissent prendre un petit calcul, un petit bout de papier et un bic.
C'est malin comme question, ça.
Shérif à la belle âge, je ne peux vivre sans toi. Tu étais la seule unique à me comprendre. Bonnet pour toujours. On s'adorait, tu es trop vite parti. Bonnet pour toujours. Tes yeux, ton pelage bigarré et tes longs cheveux dorés. Ton sourire et ta compréhension.
Et voilà, c'était Sonic, Monique Sonic avec Poney Fort Toujours.
Voilà, du belge apparemment.
Du belge, oui.
Du bon, du belge. À propos de belge, forcément, on est en Belgique. On est, pour que nos auditeurs le sachent, s'ils veulent se rapprocher de nous et voir où on est devant la gare de Floref, en fait. À Floref même, donc là avec la roulotte, le studio est dans la roulotte. Il fait d'ailleurs assez chaud. Si vous entendez un léger bruit derrière nous, c'est un ventilateur. Et donc voilà.
Voilà, oui, parce que Floref, on y était ce matin, on y est toujours. On y sera demain, mais du côté de Buzet. Voilà. Et puis du côté de Soie. Et dimanche, on sera à Florifou. Alors justement, peut-être, monsieur Le Cire, André Le Cire, on dit Floref et puis on parle de Buzet, on parle de ce qu'on disait tout à l'heure,
Franière, hein,
de Florifou, de Franière. Mmh. Alors, est-ce que tout ça, c'est Floref ou Floref, c'est Floref et,
À l'origine, Floref, Franière, Soie et Florifou sont quatre communes tout à fait indépendantes. Et c'est depuis la fusion des communes en 76 qu'on a fusionné ces quatre communes. Après
Mais
pas
pourquoi
mal de...
en fait
Pardon
Qu'est-ce qui s'est passé en 76
pour le ministre de l'Intérieur, je crois, de l'époque, wow. Joseph Michel, avait trouvé...
Quelle culture de connaître le nom du ministre.
Joseph Michel.
Oui, c'est possible.
Oui,
oui, c'est le Virtonnet. Oui. Et donc, à penser que fusionner les communes réduirait les coûts en n'ayant plus qu'un seul conseil communal, un seul service des travaux pour une association de communes. Quoi,
oui, hein. Voilà,
et
donc
à fusionner
départ...
donc, les communes suivant différents critères. Et ici, à Floref, au départ, le Floref ne devait pas exister en tant que tel. Il était prévu dans un projet initial que Franière et Soie allaient avec Jemep. Florifou et Floref avec Namur et un morceau de Floref avec Profondeville.
Mon Dieu.
Et alors, bon, il y a eu des manifestations, etc. On est allé faire un peu de chambard à Namur. Et finalement, ben, bon, l'entité de Floref est née.
Et alors, c'était quoi, pour vous, le besoin de regrouper ces entités-là dans Floref ?
Ben, c'est-à-dire que notre gros avantage, c'est d'être une entité à échelle humaine. Et nous n'atteignons pas encore les 8 000 habitants.
Quand dans toute l'entité.
Pour l'entité, oui, pour les 4 anciennes communes, dans lesquelles nous n'atteignons pas encore les 8000 habitants, malgré le boom urbanistique qu'il y a, et le phénomène de réurbanisation qui se fait très fortement sentir ici à Floreffe. Donc vous débarquez à la commune de Floreffe, vous dites j'habite telle rue, bah oui, hop, on connaît, vous n'êtes pas un martien qui arrive des 4 coins d'une entité comme Namur qui est énorme. Donc c'est vraiment à l'échelle humaine, c'est une commune malgré tout qui est très bien gérée. Et il y fait bon vivre, les taxes ne sont pas énormes. Donc, avis aux amateurs, il y a encore de la place.
Alors vous êtes un floréfois convaincu, pur souche, vous êtes né ici.
Je suis né à Fralières, mais j'ai toujours vécu à Floreffe.
D'accord. Et comment on a vu les choses comme ça évoluer en regardant en arrière un peu au jour d'aujourd'hui, en tant que floréfois dans l'âme, floréfois dans le cœur ou dans le foie. Mais
il faut dire que j'ai eu une interruption personnellement, je vais parler de mon cas personnel, j'ai eu quand même eu une interruption dans ma vie à Floreffe du fait de mon travail. J'ai fait une carrière d'instituteur et j'ai enseigné à Rochefort, j'ai enseigné à Auvelais. Donc je suis resté tout un temps, je vais dire un peu hors Floreffe quand c'était mon dortoir, quoi, plus qu'autre chose. Mais en fait, c'est pas ça qui m'a empêché de suivre l'évolution de la commune et de continuer à bien aimer la commune dans laquelle je vis.
Et alors, Jean-Philippe, je me retourne vers vous. Vous êtes un néo-floreffois ?
On peut dire néo-floreffois, tout à fait.
Ça ou
fait,
un nouveau buzettois.
Ben, Buzetti.
Buzetti.
Oui.
On dit comme
un
ça, Buzetti.
Buzetti, oui, les Buzetti et les Buzettis.
Oh, c'est joli ça. Oui. C'est mieux que buzettois. Hein.
Oui, ah, oui, et toise aussi d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, c'est l'amour qui m'a kidnappé, qui me séquestre ici depuis une petite dizaine d'années. Donc je suis un.
Donc c'est pas si néo que ça.
Bah non, ça a été, et puis ça l'est plus. Ça n'est plus, c'est juste le temps qu'il faut pour commencer à rencontrer des personnes, reconnaître des visages. Et non, c'est pas si nouveau que ça. J'y suis bien.
Et donc c'est l'amour qui vous a amené ici.
Oui.
C'est beau ça.
Oui. Bah oui. Oui, moi je trouve ça chouette.
C'est l'amour de la région ou c'est l'amour
non,
de
c'est
votre
l'amour
vie.
Tout court. L'amour tout court, oui.
Ah ben voilà.
Une Peggy, prénommée.
On la salue d'ailleurs.
Donc vous avez parlé tantôt des 4 communes. On parle de Buzet. Et donc, en fait, Floreffe, ancienne commune, se composait de Floreffe-Centre, 2 hameaux importants, Buzet et Sauvimont. Et c'était Floreffe. D'ailleurs, il y avait une vieille expression qui disait, pour cataloguer les gens, en disant aux Wallons, les monsieur de Floreffe, les gens de Buzet et les sires de Sauvimont. Ça montrait bien le clivage social qui existait entre les 3 entités. Fralières, là, c'est une pièce unique, il y a juste le quartier de Trémoureau sur les hauteurs. Et à Soie, vous avez aussi Soie-Centre, avec l'église et le château. Et alors, vous avez 2 hameaux, le Rissard et Sauvignon. Le Rissard et Jordion. Et alors, Florifou, lui, malheureusement, a été coupé en 2 par la voie rapide. Sinon, c'était un village très, très
agréable. Alors
la voie rapide qui part ici du pont du Carrefour Materne, comme on dit, qui passe la Sambre et qui va vers Soirlet. Cette route a coupé Florifou en 2. Quoi.
Ah,
moi
j'ai l'impression
côté
que Florifou
château,
était
église
tout petit,
d'un côté et côté école, ferme, etc. de l'autre côté.
Alors Jean-Philippe, l'accueil dans cette région, ça a été comment pour. Vous habitez où avant ?
Ah, j'habitais Bruxelles-Centre, j'habitais place du Jeu de Balle, moi. Je suis passé de la ville Bruxelles-Celle et à Buzet.
J'ai un
parcours improbable. Ah oui, c'est chouette, sympa. Très content d'être là, très content de faire des ruptures. Ma vie de boulot fait que je me balade beaucoup encore à Bruxelles, beaucoup à Liège, dans des villes. Et ma tolérance ville est passée de 7 jours sur 7 à 2 jours, justement, courir et revenir dans cette belle campagne. Je n'appelle pas encore la mienne, mais... Et pour revenir à Néo-Buzetti, quand j'entendrai Tchaffi un petit peu le wallon, je me sens encore vraiment bien Néo, quoi. Vraiment.
Eh bien, aujourd'hui, donc ce matin, on était au marché, on a rencontré des gens, et puis cet après-midi, on est allé rencontrer 3 personnes qui font un potager partagé. Je ne sais pas si vous connaissez le Jardin des Mille.
Mm-hmm. Oui,
moi pas.
Eh bien, c'est très intéressant. C'est très intéressant, et on peut peut-être. On explique peut-être.
Un petit mot peut-être pour introduire. Donc il s'agit de potager, d'une terre qui est destinée à être partagée entre les habitants qui le veulent. Et le petit reportage qui va suivre va vous expliquer le comment, le pourquoi et le qui.
Bonjour.
On vient pour Radio Roulotte.
Oui, on sait.
Déborah Fabré, enchantée.
Georges Quézin, moi.
Et moi, c'est Claire Calégaro.
Voilà, et Sarah,
c'est Sarah, une jardinière. Bonjour.
Alors, il y a André, qui a pas eu disparu, qui va revenir.
Il s'est caché sous les choux.
Il aurait défusé quand même.
Non,
il va. Il va vous expliquer l'origine du jardin, parce que moi, je suis autre chose dans le jardin.
Vous êtes quoi?
Moi, animateur envoyé par. Envoyé. Si on peut dire comme ça, par le service provincial de parcs et jardins, pour venir donner un coup de main, leur montrer ce qui ne va pas, éventuellement, etc.
Leur donner conseils, quoi.
Leur donner des conseils, voilà.
Vous êtes donc, comment on dit ça, potager ou jardinier
Jardinier conseil, voilà.
Professionnel, alors?
Non, je ne suis pas un professionnel du tout, puis je suis retraité, moi, vu mon âge quand même, quoi. Mais je suis un grand amateur de jardin, je suis là-dedans depuis ma tendre enfance. J'ai beaucoup appris par moi-même aussi. Et alors, la province de Namur a fait appel il y a déjà quelques années à des jardiniers amateurs, mais qui en connaissaient quand même un bout. Et c'est comme ça que je suis entré dans ce cycle. Et maintenant, je viens aider ici au jardin des Milles, donc envoyé par le service provincial des parcs et jardins.
Vous êtes de Fleuret vous-même?
Non, je suis de Marche-la-Dame.
Ah, c'est quand même une trotte, non?
Une petite trotte, oui. Mais enfin, c'est pas si grand que ça, pas si grave. Quand on aime le jardin, on tout côté.
Et qu'est-ce qu'on plante alors ici comme ça? Les gens, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils ont besoin de quel type de conseils
alors,
par rapport
il y a...
à quels fruits et légumes?
Il y a deux types de parcelles. Il y a des parcelles, on va dire, privées. Comme Sarah, par exemple, nous sommes à côté de la parcelle de Sarah, qui sont des petites parcelles. Et alors, il y a des parcelles communes, où là, on cultive, mais là, c'est un accord entre tous les jardiniers et l'animatrice.
Donc ici, disons, c'est comme une parcelle privée. Donc pour nos auditeurs, c'est difficile de s'imaginer, mais bref...
C'est une petite parcelle, hein, elle fait environ 1m20 sur 1m20.
Voilà, qui sont entourées de planches de bois.
Oui, c'est la parcelle de Sarah, et Sarah plante ce qu'elle a envie de planter dedans. Elle va demander, bien sûr, conseil si elle ne sait pas comment ça marche. Et on va lui dire, ben voilà, aujourd'hui, ben, il n'y a rien à faire, il y a un reste en ligne qu'il faut éclaircir, parce que ça n'a pas encore été fait. Donc c'est ce qu'elle va faire. À côté, il y a des panneurs, regardez, ils sont magnifiques. Il y a aussi des plantes de tomates. Alors, cette année-ci, on a de la chance, parce que vu les conditions climatiques, en extérieur, on n'a pas encore de problème de mildiou, parce que généralement, on en a. Hein.
Mais alors, ici, votre démarche, elle est... vous utilisez des pesticides ou bien vous...
Ah non. C'est sans pesticides, aucun pesticide.
C'est écolo.
Hein. C'est bio d'un bout à l'autre, donc toutes les parcelles sont compostées. Cette couleur noire que vous voyez sur la terre, c'est du compost qui a été émis, donc compost, c'est la transformation des déchets ménagers, leur décomposition, qui donne justement... cette matière particulièrement nutritive est riche en humus. Parce que s'il n'y a pas d'humus, la terre elle est morte. Donc, tu es riche en humus, il n'y a rien à faire. On a une végétation éblouissante quand on voit la hauteur des fentes de carottes là, qui font 30 cm, alors qu'il n'y a pas eu d'engrais ni rien du tout. Et en plus, les plantes sont beaucoup plus résistantes, donc elles ne nécessitent pratiquement jamais de pesticides. Le tout, c'est d'arriver à tenir le jardin en équilibre. C'est certain, on aura là-dedans des parasites qui vont venir s'installer. Ben, quand il y en a, mais s'il y en a trop, on intervient. Mais il y a des moyens assez simples pour intervenir sans pulvériser tout bout de champ.
Vous utilisez les principes de permaculture, par exemple?
Alors, la permaculture, c'est un grand titre, ça fait rêver tout le monde. La permaculture, au départ, ça veut dire culture permanente. Donc, on ne laisse jamais le sol nu, pour commencer, et on cultive toujours quelque chose derrière. Et c'est ce qu'on fait ici. On couvre le sol autant que faire se peut, parce qu'il faut de la matière pour couvrir le sol. N'est-ce pas? On peut prendre tout ce qu'on a sous la main, aussi bien les tontes de pelouse, qu'on va mettre en très fine
de la paille,
il faut aller l'acheter. Mm. Et il faudra encore qu'elle soit sans pesticides de préférence. Ça, c'est rare à trouver. Hein. Bon, des copeaux de bois éventuellement, mais ça se décompose beaucoup plus lentement. Des pailles de lin, on peut encore trouver aussi. Là, on aura plus de chance. Des pailles de chanvre. Mais il faut toujours aller les acheter aussi. Tandis que les tontes de pousse, bien souvent, on les a à portée de main. Hein. Donc là, ça ne pose aucun problème à ce niveau-là. Donc, couvrir le sol. En couvrant le sol, on évite, pour commencer, l'érosion par le vent, c'est déjà une chose. Les mauvaises herbes, autrement dit les herbes indésirables, poussent beaucoup plus difficilement, une chose intéressante. On évite une grosse partie de l'évaporation, donc on devra moins arroser. Donc ce n'a que des avantages. En plus, on utilise des déchets qui se décomposent et nourrissent le sol. Et alors, en plus, ce qu'on fait toujours ici, on essaye d'associer les différentes espèces, parce qu'elles peuvent se renforcer ou se protéger l'une de l'autre.
Ça, c'est le concept de la permaculture, non?
Mais c'est le concept du bio comme de la permaculture.
Voilà, maintenant, on lui a donné un nom, mais en fait, finalement... Bah,
vous savez, la permaculture, elle est née au début du XXe.
Voilà.
Il y a plus de 100 ans qu'elle est née.
C'est parce qu'aujourd'hui, on a mis un nom, peut-être une étiquette, mais au fait...
Quand on parle permaculture, moi, je me revois avec le bio il y a 50 ans. Mm-hmm. Le bio, tout le monde crie à rôle, bio, c'est ci, c'est ça, un tas d'histoires, sans savoir exactement ce que c'était.
Exactement.
Alors qu'elle était née déjà bien avant, et qu'elle était toujours bien pratiquée par certains, quoi. Puis c'est revenu, on a étudié la chose, et maintenant les gens savent ce que c'est que du bio. Alors il y en a beaucoup qui font du bio et qui font de la permaculture en même temps, mais sans s'en rendre compte.
Mm-hmm. Voilà. Parce que parfois on fait du bio, mais on ne fait pas forcément de l'écolo. Parfois l'écologie et le biologique, ce n'est pas toujours...
Expliquez-moi ce que vous voulez dire, là, parce que je ne comprends pas bien.
C'est pour avoir votre point de vue. Parce que, par exemple, on peut utiliser des éléments organiques pour planter, donc sans utiliser de pesticides et tout. Oui. Mais est-ce que parfois, en utilisant même des éléments organiques, à force d'utiliser trop de ces éléments, est-ce qu'on ne sature pas parfois les...
Tout à fait d'accord avec vous.
Vous voyez ce que je veux dire?
Mais là, on tombe dans le travers du chimique.
Voilà, c'est ça.
Donc, c'est aussi le rôle du jardinier, même quand il travaille en bio, il faut apporter ce qui est nécessaire, mais l'excès lui en tout. Hein. Même si c'est organique.
Mais même si c'est organique, mais voilà, c'est important à savoir.
Il n'y a rien à faire.
Et la consommation de tous ces aliments qui vont sortir de ces jardins, c'est consommation propre pour les personnes qui les cultivent.
Alors, Sarah va retourner avec ses légumes.
Collectif, ouais.
Alors, le collectif, où il y en a qui ont envie d'en prendre, ils en prennent. Et ce qui n'est pas consommé, je veux dire, par les gens qui viennent y travailler, bien souvent, on part pour le CPS, puisque ceci dépend du CPS.
C'est bien.
Donc, ça n'est pas vendu de toute façon. Hein.
Mm-hmm. On va peut-être demander à Sarah.
Oui, on va peut-être demander.
Oui, il faudrait demander en plus l'origine.
Bonjour, donc vous êtes Sarah.
Je suis Sarah, oui.
Alors, comment ça s'est passé, votre envie de venir voir ici une parcelle?
Eh bien, j'avais envie d'apprendre à jardiner, mais à la maison, on n'a pas de jardin. Donc, c'était déjà un peu compliqué. Et puis, j'ai entendu parler du projet. Et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de connaître d'autres fleurs et foies. Parce qu'il n'y a que 2 ans que j'habite ici. Donc, pour moi, c'était un peu l'occasion et d'apprendre à jardiner correctement et de faire connaissance avec d'autres personnes. Donc voilà, ça fait 2 ans que je fais partie du projet.
Donc vous êtes arrivée à Floref et directement vous êtes mise dans le projet?
Oui.
C'est une façon de connaître finalement, de connaître Floref et ses habitants?
Oui, tout à fait. On a rencontré de super personnes ici. On est une dizaine, je pense, le samedi matin. Et c'est chouette d'être dehors aussi, de passer du temps à l'extérieur plutôt que d'être toujours enfermé. Et ouais, c'est gai de venir se retrouver. On s'entend bien.
Donc au départ, il y a quand même un rendez-vous fixe par semaine?
C'est tous les 15 jours, en été en tout cas. Et en hiver, on essaie de faire une réunion pour voir un peu quels sont les projets pour l'année suivante au niveau des plantations, si on veut mettre des fleurs, des fruits. On essaie de voir un peu ensemble ce qu'on a envie de planter en fait.
D'accord, donc en fait c'est votre parcelle, mais en même temps, c'est d'un commun accord. Bon ben cette année, je ne vais pas mettre que des carottes.
Voilà, en fait, on a chacun notre parcelle. Et alors on a une parcelle commune qu'on cultive ensemble, où là on peut mettre des plus grosses pièces, les courgettes, etc. Les potirons, on les met plutôt sur la grosse parcelle, parce qu'évidemment sur une parcelle d'1m20, ça consomme beaucoup de place. Donc voilà, pour ces plus grosses pièces, pommes de terre, etc., on plante tous ensemble. Et
vous avez planté quoi?
Alors j'ai planté du chou, de la salade à couper, donc on la coupe, elle repousse tout au long de l'été, donc ça c'est pratique. Des fraises, mais qui malheureusement ont un peu souffert de la chaleur. Des tomates, du panais, qui a super bien poussé, j'en suis super fière. Et des carottes. C'est pas mal, hein, pour un petit carré.
Pas mal du tout. Et vous avez choisi ça comment?
Alors en fonction de mes goûts. Voilà, donc ce que j'aime bien manger, donc les tomates, carottes... Voilà, des trucs simples. Le chou, c'est la première fois que j'en plante. Ça, par contre, je ne sais pas encore trop comment je vais le cuisiner, mais j'ai plein de jardiniers autour de moi qui ont plein d'idées. Donc ça, c'est super aussi pour les recettes culinaires.
Et vous habitiez où avant, si ce n'est pas indiscret?
Du côté de Charleroi, moi. Je viens du côté de Charleroi. On a acheté une maison ici dans le centre. Et donc, voilà, je ne connaissais pas grand monde. Donc voilà, ça nous a permis de faire des chouettes rencontres. De temps en temps, on fait un petit barbecue tous ensemble ici au jardin et on consomme nos légumes. Donc ça, c'est super chouette.
Oui, en tout cas, c'est très intéressant parce que des tomates en Belgique, quand même.
Et, ça arrive pas souvent, des tomates en Belgique?
Bah,
sûr.
Si. Bah oui.
Tomates en Belgique, c'est une vieille histoire, ça.
Oui.
Il n'y a pas qu'en Espagne qu'il y a des tomates.
L'idéal pour les tomates, c'est de les cultiver à l'abri de la pluie.
Oui.
Voilà.
Dans des serres ou des trucs comme ça.
Une serre, bien sûr, là, dans la chaleur en plus, c'est sous toiture. Mais en extérieur, une toiture au-dessus, si possible, fermée plus ou moins du côté devant, dominant que la pluie ne fasse pas. Il y a une autre très belle récolte. Hein. Surtout en choisissant la variété. Puisque chaque variété a plus ou moins de sensibilité. Donc c'est là que j'interviens, c'est le bon renseignement.
Alors justement, en parlant des variétés, j'y pense maintenant comme ça, les semis, les graines, etc. Où est-ce que ça se passe comment? C'est-à-dire tout le monde met un peu d'argent dans un pot commun et qui s'occupe d'aller chercher les graines?
Sarah, tu sais venir répondre à cela, s'il te plaît?
J'ai peur de marcher sur...
Non, il y a des échalotes ici. Mais là où vous êtes, là, vous avez encore 30 cm.
Les graines, par exemple,
l'achat,
le choix des graines, des graines de tomates, il n'y a pas qu'une seule graine de tomate. Le choix, attention, pas tomber sur des OGM.
En fait, il faut savoir que donc, ici, c'est un projet de la commune du CPS. Et donc, on paye 5 euros l'année pour une parcelle de terrain, ce qui n'est rien du tout. Et on nous fournit les graines. Et c'est quelqu'un du jardin qui s'y connaît bien, qui va chercher ça dans un magasin bio, je pense. Enfin, en tout cas, il sait se fournir. Et donc, on ne paye que 5 euros. Voilà. Donc, 5 euros l'année, on a plein de légumes. Je te rends compte, ça vaut la peine. Hein.
Ouais.
Il y a encore des carrés disponibles, si jamais je fais un peu de publicité. Donc, voilà.
Ok. Et après, on vient dire que le bio, ça coûte cher.
Eh ben,
c'est affolant. Hein.
C'est
une grosse erreur. Avec 170 mètres carrés, chez moi, j'ai un potager qui fait 170 mètres carrés. Et avec ça, j'ai fait tous mes légumes pour l'année, pour moi et mon épouse. Et mes filles viennent encore faire leurs courses à l'occasion. Et vous travaillez à combien ça me coûte? En achat de graines et de semences, ça me coûte moins de 100 euros par an.
Alors, pourquoi est-ce que le bio est si cher dans le commerce?
Il faut bien se dire que le bio demande énormément de main-d'œuvre. Toute l'agriculture et l'horticulture ont été développées d'une façon industrielle. Moi, je me souviens, il y a 50 ans, un pulvérisateur de 6 mètres, c'était déjà une grande machine. Maintenant, on s'en met un, le gars, il déplie son pulvérisateur, vous faites 40 mètres d'un coup. C'est un bilan chimique. Alors, vous prenez une rasette et vous essayez de faire 40 mètres d'un coup. Hein. Lui, il est trôné depuis longtemps et vous n'avez pas encore fini votre première ligne.
Oui, c'est le temps de travail, en fait.
Voilà. Il y a des méthodes à mettre en place, bien sûr, ça se met en place, mais c'est plus cher d'un côté parce que ça demande plus de main-d'œuvre. Sans compter que les intermédiaires, parce que c'est du bio, on profite aussi de temps en temps pour augmenter un peu le prix.
C'est comme ça qu'on a du bio dans les grandes surfaces.
Oui, parce qu'ils savent bien qu'il y a un marché pour. Et n'oubliez pas que vous mangez bio, vous mangez moins que du conventionnel. Et vous êtes mieux.
Et voilà donc les jardins partagés de Floref, le jardin 10 000. Que vous pouvez retrouver sur la rue Émile Romeden. Et c'est bien pour ça que ça s'appelle le Jardin d'Émile. Vous nous écoutez toujours sur Radio Roulotte, sur le 106.2 autour de Floref, et également sur les radios partenaires.
Nous avons 48 FM,
Radio Campus,
Radio Panique,
UFM,
la radio universitaire de Namur. Et puis vous pouvez aussi nous écouter
sur le
www.radio.esperanza.be.
Voilà, toujours Radio Roulotte. Alors on parlait justement de ce potager collectif à Floref. Alors André Le Cyr, est-ce que Floref a une tradition d'agriculteur?
Non, pas spécialement. Non. Non, il y a de l'agriculture à Floref, il y a quelques fermes importantes, mais Floref n'est pas un village agricole. Hein, Soie et Florifou étaient plutôt agricoles, Floref et Franière étaient plus industriels et artisanales.
Alors on dit industriel et artisanal, donc je suppose d'abord artisanal.
Oui.
Alors quel artisanat?
Disons qu'à Floref, il y avait un artisanat assez important. Il y avait une plumerie, par exemple. Je le disais cet après-midi aux enfants.
Oui, les qu'on plumes, écoutera plus tard, d'ailleurs.
La plume ballon pour écrire. Hein, ils savent plus ce que c'est, puisqu'on écrit au bic maintenant. Hein, donc,
il y avait quand même quelques-uns qui
savaient. Mais il y en a quelques-uns qui la connaissaient. Donc, on avait une plumerie ici assez importante. Et l'année dernière, j'ai visité le château de Bouillon avec mon petit-fils. Et dans un grenier, il y a une exposition sur l'écriture. Et il y a il possède la carte avec tous les échantillonnages des plumes de Floref. J'étais assez étonné de trouver ça là-bas.
Donc plutôt artisanat, pas...
On faisait des truelles aussi. Il y avait un forgeron qui avait mis au point une méthode de trempage pour les truelles de maçon. Et les truelles estampillées Floref étaient reconnues, je ne pas dire dans le monde entier, mais long et large. Donc, ce sont quelques exemples. Quoi. Et alors, au 19e siècle, fin du 19e, il y a eu l'industrialisation et les verreries sont venues s'installer dans la Basse-Sambre. Floref avait sa glacerie, comme on disait, Fragnière avait la sienne, Moustier.
Glacerie, alors, on entend quoi par glacerie?
Ben, on fait du verre à vitre.
C'est du verre.
Et des miroirs.
D'accord.
Ce n'est qu'un traitement du verre. Hein.
Et aujourd'hui, toute cette zone industrielle, parce qu'elle existe encore?
Ben, elle existe toujours, elle est restée en friche un certain temps, mais il y a d'autres ateliers, des PME qui s'y sont installés. Quoi. On a eu une laiterie tout un temps ici à Floref, une laiterie Sambre-et-Meuse, qui était installée ici sur le site de l'ancienne glacerie notamment. Alors maintenant, c'est principalement le Forem qui occupe ce site-là.
Et tout à l'heure, vous nous parliez également de la confiture materne.
Oui.
Alors, est-ce que c'est de Floref vraiment? Bon, la confiture, si c'est, ou de la compote, si c'est des pommes, il devait y avoir quand même une culture de la pomme par ici?
Non. Materne est originaire de Jambes. Hein, ça a fait la famille Materne, c'est une famille jamboise, hein, qui a donné des bourgmestres à Jambes notamment, etc. Et cette confiturerie Materne se trouvait à Jambes, là où se trouve à peu près à Sinapolis maintenant, c'était dans ce quartier-là, près de la gare de Jambes. Et alors dans les années 70, bon, ils étaient un peu à l'étroit, il fallait moderniser. Et ici à Floref, on ouvrait le zoning de Florifou. C'est ainsi que Materne est venu s'installer ici à Floref.
Et ça, on ne savait pas, évidemment.
Voilà, très intéressant.
Alors Jean-Philippe, tu savais tout ça?
Pour Materne, oui. Pour toutes les anciennes industries, pas du tout. J'en apprends plein, c'est super.
Alors toi, qu'est-ce que tu connaissais de l'histoire de l'endroit où tu vis maintenant?
Peu, sauf le quartier, la place de Buzet dans laquelle je vis, où il y avait des moulins à grains, il y avait toute la maison dans laquelle je vis était un ancien une réserve à grains, et puis par après, Buzet était rempli de commerces, de coiffeurs, trois petites épiceries, deux cafés. Quand je dis deux cafés, c'est deux cafés officiels et 18 en off.
C'est-à-dire, c'est quoi ces cafés en off?
C'est le café cuisine, quoi. Donc une épicerie était un café aussi, mais il y avait un tas de commerces là, et là il y a une boulangerie, une librairie, et puis voilà, il y a plus cette ville là mais avoir les photos du village de Buzet avant la construction de la nouvelle route, ça valait d'être un petit village bien bien paisible et bien animé.
Est-ce que parfois tu regrettes pas de pas être arrivé là avant? D'avoir
connu un avant ailleurs, donc je ne vis pas trop dans le passé.
D'accord.
Mais tu t'intéresses à la vie avant, à te dire, tiens, je vis dans un endroit, quel est le patrimoine, quelle est l'histoire
pas
de
encore.
L'endroit où je vis? Bon, après 10 ans.
Oui, pas encore. Je suis dans ma vie, je trace, j'essaie de construire des choses ici sur Floref, dans une partie de mes activités.
Et que fais-tu?
Mais on a fondé, grâce à Esperanza, une petite association qui s'appelle EBIPS. Ce sont des joyeux réenchanteurs urbains. On s'est installé depuis 4 ans dans les anciens ateliers de la gare. Mais on ne travaille pas que sur Floref. On a l'occasion de travailler sur Esperanza, sur la Brocante, etc. Et donc on n'a pas vraiment un ancrage.
Sur Bruxelles aussi d'ailleurs. Hein.
Oui, sur Bruxelles.
On trouve des BIPS à Bruxelles.
Oui, on en trouve partout, les BIPS, hein, les réenchanteurs, c'est rigolo.
Je ne vois pas très bien ce que c'est, des bips, des bips.
Ah, alors ça c'est...
Et puis pour nos auditeurs, à mon avis, ça ne va pas être la selle.
Oui, donc les bips, c'est le pluriel des personnes qui transportent le bip, le BIB. Et le BIB, je vais laisser un tout petit temps, c'est un clin d'œil à PIB. Mm-hmm. Voilà, et le B, c'est bonheur, et donc ça devient bonheur intérieur brut.
Très bien.
Voilà. Et c'est pour ça qu'on est réenchanteur et qu'on se balade dans des festivals où il y a plein d'occasions pour les festivaliers de se réenchanter autour de leurs déchets ou de leur covoiturage, etc. Et donc nous sommes ces joyeux réenchanteurs, animateurs pour beaucoup de festivals maintenant en région wallonne et à Bruxelles.
D'ailleurs, le BIP, donc c'est redit.
Le bonheur intérieur brut.
Mais il y a un pays qui l'a adopté.
Tout à fait.
C'est le Bhoutan, non?
C'est le Bhoutan qui est précurseur. Alors tout le monde a.
Ça vient de là? Des bips ou c'était déjà avant ?
Ça, en fait,
c'est eux qui ont copié sur
le, Bhoutan a construit sa constitution autour de Bonheur National Brut.
Oui, c'est ça.
Voilà, le BNB.
Voilà.
Et donc chaque décision qui doit être qui est prise dans ce pays passe par quatre filtres. Doit passer positivement par quatre filtres. Un filtre social. Donc ce projet doit être bénéfique socialement, économiquement, culturellement et écologiquement. Et voilà, ça a l'air assez simple comme ça,
mais...
et ça marche bien. Alors, le régime du Bhoutan, t'as un peu à discuter, voilà, on en est loin, et puis est-ce qu'on peut vraiment juger de ça ? Mais c'est devenu une référence, et c'est devenu une référence carrément onusienne. Donc le Bhoutan enrichit de plus en plus l'ONU de nouveaux indicateurs. Ici, la Wallonie vient de terminer un projet de réflexion sur des nouveaux indicateurs. C'est quoi l'indicateur de la santé, du bien-être d'un pays et sur toute sa population ? Mm-hmm. Est-ce que c'est juste le produit national brut ?
Oui, parce que pour valoriser, pour donner une échelle, pour...
Voilà.
Difficile ?
C'est difficile, mais on pose peut-être pas les bonnes questions, on est peut-être dans des paradigmes qui datent un petit peu, on est à la fin de ces paradigmes, je veux dire, par faire toute l'histoire de la crise financière, etc., etc., mais on est en train de terminer des cycles de néo-capitalisme, des cycles de financiers à court terme, on est en train sur un grand cycle, on est en train de terminer un cycle de l'ère paternaliste, mm-hmm. etc., etc. On pourrait se dire que dans les 100 ans qui viennent, ces cycles vont converger à se terminer pour éventuellement imaginer une autre manière de vivre, une autre manière d'être heureux.
Et peut-être on se recentrer sur le local et donc en revenir à des valeurs plus simples comme le jardin partagé et l'ancrage dans un village.
Complètement. Puis on peut se dire qu'il n'y a bientôt plus de pétrole. Ça, c'est comique.
Le pic, on sait où il en est, le pic.
Voilà.
Et donc, tu mettrais, Jean-Philippe, ta région, ton village, à quel niveau de bonheur, enfin, au niveau BIP ?
Oh,
sur une échelle de 1 à 10.
Je le mettrais dans une moyenne, dans la moyenne générale. Il n'y a pas plus de malheur et de bonheur sur Florès. Je trouve que les personnes y sont bien, s'y sentent bien. 6.
Seulement ?
Sur 20 ?
6.
Sur 10.
J'ai pas encore fait de...
C'est à la limite de la balance. C'est une satisse.
J'ai pas fait de sondage.
Mais non, mais pour toi ?
Ah, moi, c'est 10.
Ah, ben voilà.
Oui,
c'était pour toi.
Moi, je vis 10, pardon.
C'était pour toi.
J'ai mal compris la question.
Et vous, monsieur André Le Cire, votre vie à Floref, au niveau bonheur
je me sens bien, il n'y a pas de souci.
Donc, vous aussi.
Si je dis jamais quitté, c'est que c'est que tout baigne, comme on dit.
Et puis il y a des enfants à Floref.
Voilà.
Il y a plein d'enfants à Floref et dans les entités, enfin, on va dire Floref, donc on parle de Buzet, Franière,
Soir,
Florifou, c'est les quatre. Et qui se retrouvent à la plaine de jour, je ne sais pas très haut comment on appelle
ça. Plaine communale.
Plaine de jeu communale, tous les jours. Et on a été les rencontrer avec vous d'ailleurs, André Le Cire.
Pourquoi Floref s'appelle Floref ?
Ah, il y a plusieurs explications possibles. Hein, ça peut venir de la devise de Floref, hein, une devise latine qui dit florete, flores, fleur, fleurissez. Hein. On dit aussi, parce que la Sambre était une petite rivière près de laquelle il y avait beaucoup de fleurs. Hein, il y a une expression latine aussi, florida ripa, les rives fleuries. Et Floref pourrait venir de là.
D'office au niveau des fleurs. C'est Floref, la racine, c'est les fleurs.
Il y a une rose dans l'emblème de Floref. Donc ça peut justifier ses origines.
Vous saviez qu'il y avait une rose dans l'emblème de Floref ?
Non.
Ah, s'il y en a une, oui. Oui ?
Quand vous passez devant la commune, vous regardez, il y a le drapeau de Floref qui est mis. Il y a un F argenté avec une rose à côté.
Ah oui, ça parle de la commune parce que mon père... Là-bas.
Oui.
Oui, parce que ma maman aussi travaille là-bas.
Et vous ne saviez pas qu'il y avait une rose dans l'emblème de Floreffe?
Si, moi
aussi. Toi aussi. Alors, il y avait la question suivante, c'était Nicolas Paulet. Là, tu peux rester là. Tu veux venir? Oui, allez, viens.
C'est qui a créé l'histoire de Floreffe?
Qui a créé? Non, redis, parce que c'est pas l'histoire.
C'est qui avait créé l'histoire?
Floreffe.
Qui a créé l'histoire de Floreffe?
Qui a créé Floreffe?
Ah, qui a créé? Oh, ça, on ne sait pas très bien, hein, parce que il y avait des gens déjà très tôt ici. Hein. On dit que Jules César est passé à Floreffe. Jules César, c'est avant Jésus-Christ. Hein. Et alors, on a retrouvé aux grottes ici de Floreffe, on a retrouvé des ossements et des silex qui dataient de la préhistoire, donc plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Donc il y a eu certainement des gens très très tôt ici. Hein, mais le village de Floreffe, proprement dit, il n'y a pas de date bien précise.
Ça, je ne savais pas depuis longtemps.
Ah bien, tu vois.
Il n'y avait pas, on ne sait pas de quand, clairement, on a donné le nom Floreffe. Les premières traces dans des chartes.
Ça, je ne saurais pas dire exactement. Je pense en 1121, en tout cas, quand le comte de Namur donne la terre de Floreffe à Godefroy pour. Comte Godefroy donne la terre de Floreffe à Norbert pour créer l'abbaye. Le nom de Floreffe ou un nom semblable existe déjà. Mais précédemment, je ne saurais pas dire exactement.
Moi, c'est normal si je ne sais pas. Que Floreffe a été créé depuis longtemps parce que moi je suis née le 18 novembre en 2005.
1800 ?
Oui, il est né en 2005.
Ah, en 2005, oui, alors là, oui, il n'y a pas très longtemps.
Alors la question aussi qui était revenue, on leur avait demandé quel était le nom de leur rue. Mmh. Et il y a beaucoup de noms de personnages en fait. Pourquoi ?
Mais disons que cette mode de donner des noms de personnages vient d'après la Première Guerre mondiale. Là, on a voulu honorer donc des combattants, des déportés qui étaient décédés soit au combat, soit en captivité, soit en déportation. C'est ainsi qu'on a ici, sur l'entité de Floreffe, je crois, une vingtaine de noms de rues portant des noms de personnes. Et bien souvent, donc, ce sont des gens de cette catégorie-là. Principalement à Floreffe, quelques-uns à Florifou et quelques-uns à Soie. Et à Fragnières, il n'y en a pas.
Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de Fragnières ici.
Oui.
Moi.
Toi, où habites-tu à Fragnières?
Fragnières, rue de Demain.
Ah, rue de Demain, je suis au-dessus, ça. Le numéro de ma maison,
c'est 110. Moi, c'est Floreffe, rue Mauditienne, numéro 11.
Ah, rue Mauditienne, oui, oui. Ça monte fort, hein, là. Hein? Eh bien, c'est pour ça que ça s'appelle Mauditienne. Hein? Parce qu'il y a très longtemps. Il y a très longtemps, les charretiers qui devaient monter là avec leur charrette, hein, les chevaux avaient beaucoup de peine à monter et les charretiers maudissaient ce Tienne qui était difficile à grimper.
Donc Tienne, c'est une pente alors?
Oui, c'est une pente assez forte. Hein.
Et toi, tu l'as fait en vélo?
Oui, je le fais tout le temps en vélo parce que j'ai un ami qui habite un peu plus haut.
Et t'arrives à rouler en vélo sur cette maudite montée, alors?
Oui. Pourquoi ma rue s'appelle Célestin Astir?
Célestin Astir, ah oui. Donc ça, la rue Célestin Astir, au départ, ça s'est appelé rue de la Station, hein, puisqu'il y a la gare qui est tout au bout. Et c'est vers 1920 qu'on a donné le nom de Célestin Astir, qui était un homme de Floreffe, qui est mort pendant la Première Guerre mondiale.
Ben voilà, la preuve de ce qu'on disait juste avant. Merci. Quelqu'un d'autre?
Léo.
Ma rue s'appelle Ferdinand Franco.
Ah, ça c'est à Florifou. Je crois que Ferdinand Franco, c'est un ancien bourgmestre de Florifou. Je pense que c'est en son honneur, donc cette rue-là a été baptisée de cette manière-là.
Et en fait, dans Floreffe, enfin, Floreffe, maintenant, ça regroupe Florifou et plusieurs... Voilà. Mais tout ça, avant, c'était séparé.
Des quatre communes indépendantes. Donc, depuis la fusion, on n'a plus qu'une seule administration communale.
Mais avant les fusions, donc, on avait le Fragnier, Florève, qui était Florifou et Soie, qui étaient quatre communes à part entière, avec leur conseil communal, leurs institutions. Et tout ça, bien sûr, a été un peu bousculé. Quand M. Joseph Michel a décidé de procéder à la fusion des communes, donc en 76, je crois, je me souviens bien.
D'accord. Oui. Pas tout récent, mais c'est pas vieux non plus.
Non. Mais enfin, pour beaucoup, ils habitent Floreffe, quoi, hein, même s'ils sont sur Fragnières, soit ou Florifou. On a un peu dépersonnalisé ces anciennes communes. Hein, allez, un enfant qui habite Fragnières ou habite Tube, Floreffe. Ah oui, mais si vous cherchez un peu, ah non, j'habite Fragnières.
Parce que ici, quand on a demandé si tout le monde habitait Floreffe,
ah, ils sont.
Est-ce que vous. Y a, tout le monde habite à Floreffe ici ?
Moi, non.
Non.
Moi, j'habite à Soie.
À Soie.
Ah, mais c'est bien ça.
À Fragnières.
Voilà.
Fragnières. Soie.
Florifou.
Florifou.
Oui, très bien. Voilà, au moins, ils ont encore conscience de leur localité. C'est bien.
Tu avais encore une question ?
Pourquoi ça fait depuis quel âge que le pont est mis à Floreffe ?
Ah, le pont pour aller à Modiquienne ?
Non, pour passer de l'autre côté de la Sambre.
Oui, mais ici au village ?
Un vieux pont, tu veux dire ?
Non, près de Modiquienne.
Ah, ben le pont Modiquienne, oui. Attends, donc, il y a très longtemps, on va dire comme ça. Hein, là, dans le tournant, là, il y avait un petit port. Il y avait un passage à gué. Et alors, on a fait successivement des travaux sur la Sambre. Et je pense que ce n'est que début du 19e siècle qu'un premier pont a existé. Hein? Et alors, la Sambre a été modifiée plusieurs fois. Hein? Et pendant la guerre 14, on a fait un nouveau pont. Ce pont-là a été détruit à la guerre 40. Et puis on a de nouveau refait un nouveau pont. Et alors, par après, donc, dans les années 60, on a fait le pont actuel. Parce qu'en 60, on a encore fait des grands travaux sur la Sambre, on a dévié le cours de la Sambre et on a fait un nouveau pont à cette époque-là. Donc le pont que tu vois maintenant, il date des années 60.
C'est lequel ? C'est celui qui est juste ici en bas et qui va vers Florifou ?
Non, celui, le pont de Modiquienne.
Donc quand vous... Tournant, très serré.
Quand vous passez derrière la maison communale, rue Hans, puis vous abordez la rue des Déportés, et sur votre droite, vous avez le pont de Modiquienne.
Pourquoi ma rue s'appelle rue du Calvaire ?
Rue du Calvaire, à Fragnières. Ah, qu'est-ce qu'il y a tout au-dessus de la colline ? Rue du Calvaire. Quand tu montes ta rue... Dans un tournant, il y a une petite chapelle sur la gauche. Oui ? Mais ça c'est un calvaire. Et dans cette chapelle-là, il y avait un Christ en croix avec deux statues, Saint-Jean et la Vierge Marie. Et on l'appelait le vieux bon Dieu de Jean Blou, ce bon Dieu-là. Et on a donné donc le nom de rue du Calvaire à cause de cette petite chapelle.
Qu'on appelle un calvaire.
C'est qui ont créé toutes les rues ?
Comment dis-tu ?
C'est qui ont créé toutes les rues ?
Ah,
c'est une bonne question.
Tu sais, au départ, les gens créent les rues pour, comment vais-je dire, pour réunir deux endroits. Hein, quelqu'un qui habite ici et qui va aller là, il ne va pas faire un grand tour ainsi, hein, il va essayer d'aller au plus court. Et à force de passer, ben, y a un sentier qui se crée. Et si on trouve que c'est intéressant, ben, on va l'aménager, on va en faire une rue.
Et on va s'installer des uns côté des autres.
Et alors, tout ça va s'organiser et donner donc un aspect au village, hein, comme tu as ici.
C'est qui le premier qui a été né ?
Le premier ?
Homme ou la femme qui a été née ?
Qui était à Floreffe ?
Oui.
Ah ! Quand on a retrouvé les os aux grottes, il n'avait pas sa carte d'identité. On n'a pas su le savoir. Ça, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas qui c'est.
Est-ce qu'il y a, oui, il y a très très longtemps.
Oui, hein, ça, on ne sait pas. Hein. On n'a même pas de nom du plus vieux Floreffois connu ou quoi. Non, ça, c'est une question difficile.
Qu'est-ce qu'on racontait à Floreffe ?
Bon, on racontait un peu les mêmes histoires qu'un peu partout. Et malheureusement, le site n'existe plus. Mais il y avait ici, sur les hauteurs, en face de l'abbaye, une grotte assez importante, hein, qui a été malheureusement comblée par un premier dépôt d'immondices à une époque où on ne faisait pas tellement attention au site naturel. Alors on raconte que dans cette grotte, il y avait des nains qui vivaient dans cette grotte.
Vous avez entendu parler, ça, d'une grotte avec des nains, hein, Florent ?
Elle n'existe plus, il ne faut pas la chercher. Moi, je sais où elle était, mais on ne la voit plus. Tout a été recouvert de terre. Et alors, ces nains-là, ben, ils devaient manger. Hein? Alors, ils rendaient des services à la population contre de la nourriture. Donc, ainsi, une dame qui avait du repassage à n'en plus finir, eh bien, le soir, elle allait porter sa manne de linge devant la grotte. Elle mettait du pain, des légumes à côté. Et le lendemain matin, le linge était repassé. Un cordonnier qui avait trop de boulot, il avait des paires de chaussures à réparer. Il n'aurait jamais su les réparer tout seul, tellement il y en avait. Hop, le soir, il allait mettre les chaussures à réparer devant la grotte avec une bouteille de vin, hein, et d'y faire un jambon. Et le lendemain, les chaussures étaient réparées. On raconte la même chose à Malone. Hein, sinon, on n'a pas de tissu de légende comme vous avez dans les légendes ardennaises, etc. Ici, on n'a pas.
C'est quoi la spécialité de Floref ?
Une spécialité ? Ben, actuellement, dans tous les grands magasins, on prend un pot de confiture materne Floref.
Ah hein?
Oui, la confiture materne, c'est à Floref, hein, depuis la fusion des communes à peu près. Un materne qui était à Jambes est venu s'installer à Floref dans le zoning de Florifou. Hein, donc, sinon, comme spécialité même ici, industriellement, ben, il n'y a plus rien. Mais Floref, Franière ont été des terres de glacerie. Il y avait une glacerie à Floref, une à Franière. Bon, maintenant, Floref a cessé ses activités depuis bien longtemps. Franière a duré jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Mais Floref était surtout un village d'artisans. Il y avait beaucoup de petits artisans ici à Floref. On fabriquait même ici des plumes pour écrire. Ça, vous ne savez pas ce que c'est. Hein. Si ? Ah, voilà.
Encore inventé les bics, on avait pris des plumes et on les trempait dans la langue.
Et bien, ici à Floref, il y avait un atelier où on fabriquait des plumes pour écrire, entre autres.
Et la bière ?
Ben, la bière, elle ne date pas de bien longtemps. Hein. C'était aussi dans les années 70. Hein. Quand on a lancé commercialement le moulin Brasserie, on a décidé de créer une bière. Et comme dans les archives, on avait retrouvé une recette d'une bière de qualité, la Prima Melior, hein, qui était. On s'est dit, tiens, ben, on va créer la bière de Floref. Et alors, on a pris trois catégories. Hein, la double, la triple et la meilleure, parce qu'on a repris les catégories que l'abbaye faisait. La première meilleure, la segunda, la tertia. Et c'est comme ça qu'on a... Mais elle n'est pas faite à Floref. C'est une bière d'abbaye qui est faite chez Lefebvre à Canas, je crois, comme spécialiste des bières d'abbaye.
Voilà donc, toujours sur Radio Roulotte 106.2 autour de Floref et sur Internet également. On entendait donc André Le Cyr avec des enfants. Les questions vous ont un peu... Est-ce que vous attendiez à ces questions-là ?
Oui, c'était des questions tout à fait traditionnelles, quoi. Hein. Et ce qui n'est pas mal, c'est qu'ils s'intéressent quand même à leur rue, entre autres. Hein. Tiens, pourquoi ma rue s'appelle-t-elle de cette manière-là ? Donc ça montre qu'ils ont un certain intérêt pour l'endroit où ils vivent. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que ces enfants étaient très, très disciplinés. La plaine est très bien tenue, dirait-on.
Et donc, vous faites partie du mouvement des Gritters.
Oui.
Donc ce sont ces, entre guillemets, guides bénévoles. Le train passe, on est sur la gare, toujours sur le parking de la gare.
Oui, c'est-à-dire que le concept des Gritters est né, aux États-Unis. Mm-hmm. Hein, des touristes débarquent et le gars du coin leur fait découvrir son quartier à sa manière. Quoi, hein, comme je le disais tantôt, avec ses tripes.
Hein. Donc on peut vous retrouver sur l'Office du tourisme de Floref.
Oui, ici donc, on a un office du tourisme assez dynamique.
hein, qui a mis au point pas mal d'activités ici sur Floreffe. Et alors, cette année, donc, on a adhéré au mouvement Greeters. Nous sommes trois pour le moment à pouvoir donc, présenter notre village.
Et alors, toi, Jean-Philippe, tu as un projet aussi sur Floreffe ?
Ah ben oui, j'ai un projet juste à côté, sur la gare. On doit déménager, on est en fin de bail d'un côté, on a un nouveau bail. Et donc on reçoit un espace vide qu'on est en train de monter avec des palissades de palettes, de caisses en bois. Et donc ça va s'appeler, le nom de code, c'est une cité enchantée qu'on va, on va s'installer avec une autre association. Et puis l'idée, c'est d'ouvrir cet espace à toute initiative de Floreffe et de créer peut-être un endroit d'autonomie où on imaginerait peut-être commencer par faire soi-même ses produits d'entretien, faire soi-même ses produits de beauté, pourquoi pas une microbrasserie, du pain, un petit potager, etc. etc. Et donc voilà, ça va être, c'est en route, c'est en cours et c'est chouette.
C'est en route, c'est en cours. Et s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, ils vont parler avec qui, ils vont trouver qui?
Mais ils viennent me trouver moi pour le moment, mais il y aura une com dès que ce sera un tout petit peu plus installé, plus concret. Oui, là, pour le moment, c'est encore un grand champ de palettes.
Parfait.
Et alors, je voudrais juste faire un tout petit mot. Merci d'être là. Je rencontre André Le Cyr et vous êtes vraiment très, très, très utile. À la cohérence, à la convivialité.
Moi, je me disais justement que vous êtes utile en fait à votre village, à votre communauté, et c'est vraiment super important d'avoir des gens comme vous en fait.
Oui, et puis permettre de vous faire vous rencontrer. En fait,
mm-hmm. Oui, je ne connaissais pas Jean-Philippe non plus, donc voilà. C'est de l'occasion.
Et donc, vous débarquez comme ça de Mars et.
Non, de Bruxelles et de Barcelone et de.
Voilà, vous nous faites nous rencontrer et en ça, je trouve que c'est un super, super projet. Et ça me donne plein d'idées, parce que pourquoi pas un décrochage radio dans une cité enchantée à la gare de Floreffe. Waouh.
Nous, on adore hein, les projets enchantés, et pour réenchanter les gens.
Et les radios enchantées.
Et les radios enchantées, réenchanter aussi le monde. Voilà, c'est un peu le but de tout ça, le but de cette radio roulotte.
Une autre radio est possible.
Voilà. Wow. Voilà, une autre radio est possible. Alors demain, on sera à Buzet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Buzet ?
Eh bien, qu'il y a tout nouvellement un marché qui sera à sa troisième édition. Je pense que vous y serez.
C'est ça. Donc, c'est la coopérative Artisan-Paysan.
Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment super sympa. Et que, ben voilà, ça reste un village. Dommage qu'il soit traversé par une route importante et un petit peu cassé. Mais ça reste un village. On parle du village à Buzet.
Voilà. Donc, demain à Buzet, donc c'est demain vendredi. Samedi, on sera à Soie parce qu'il y a la fête de Soie. Alors, la fête de Soie, André Le Cyr, quelques mots sur la fête de Soie. Il y a une tradition ou...
Mais c'est-à-dire qu'il y a un syndicat d'initiative assez actif à Soie et qui, il y a quelques années, déjà avait mis sur pied un cortège historique, en quelque sorte, où il retraçait l'histoire de Soie, une histoire qui tourne autour du château de Soie, notamment, qui est un endroit assez emblématique. Et donc chaque année, ils refont ça avec de plus en plus de faste. Et j'ai vu dernièrement qu'il y a une toute jeune présidente maintenant du syndicat d'initiative qui a l'air d'avoir beaucoup d'idées et qui va redynamiser ce... Enfin, non pas redynamiser, continuer à dynamiser le syndicat d'initiative de Soie.
Et voilà, et puis dimanche, on sera à Florifou. La roulotte, donc, vous pouvez la reconnaître facilement. Elle est toute colorée, elle est marquée Radio Roulotte dessus. Et on vous accueille avec grand plaisir à nos micros. N'hésitez pas, on est là et on restera là au moins pendant 4 jours. Voilou, voilou.
En fait, Radio Roulotte, c'est une... On va faire de la radio dans une roulotte tirée par des chevaux de trait.
Les émissions de Radio Roulotte sont sur le 106.2 FM autour de Floreffe, également sur les radios partenaires, Radio Panique à Bruxelles, Radio Campus à Bruxelles, Radio 48 FM à Liège, Run à Namur et UFM à Mons. Et c'est un projet soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.